Le tour de la presse internationale avec vous, Catherine Potet, et à la une, la visite de Volodymyr Zelensky à Washington.
C'est en effet ce vendredi que le président ukrainien devrait être reçu par Donald Trump, juste après Keir Starmer, le premier ministre britannique qui était hier l'invité du président américain. L'occasion, suite à leur conférence de presse commune, d'évaluer les intentions de Donald Trump vis-à-vis de l'Ukraine. Pour le Wall Street Journal, le président américain a adopté un ton plus favorable, tempérant ses critiques les plus dures à l'égard de l'Ukraine, affirmant notamment qu'il ne pouvait pas croire qu'il ait un jour qualifié le président ukrainien de dictateur. De son côté, le soir met l'accent sur une autre déclaration de Donald Trump. Il a affirmé hier au sujet d'une trêve entre l'Ukraine et la Russie, soit ce sera pour bientôt, soit ça n'aura pas lieu du tout. Keir Starmer appelant de son côté les États-Unis à éviter tout accord qui récompense l'agresseur. En Espagne, El País a retenu une autre des déclarations de Donald Trump dans laquelle il déclare que l'accord économique qu'il signera aujourd'hui avec Volodymyr Zelensky sera une garantie de sécurité pour l'Ukraine. Ce sera très bon pour eux sur le plan économique, a ajouté le président américain. Comme toujours, prolixe en matière de commentaires.
Au Proche-Orient, le Jérusalem Post revient sur les défaillances de l'armée israélienne le 7 octobre 2023.
Défaillances révélées dans un rapport publié hier. Une source de Tzal rapportée par le quotidien israélien résume ainsi la situation. C'était comme si nous n'avions ni jambes ni yeux et que nous essayions juste de savoir où il fallait courir. L'enquête réalisée par l'armée israélienne elle-même met toujours le déni du commandement, ne pouvant admettre qu'il avait été vaincu. L'armée israélienne n'a pas réalisé, n'a pas pu imaginer que 157 de ses soldats aux frontières avaient été tués en seulement 3 à 5 heures et pour beaucoup au cours de la première heure de l'invasion, explique le Jérusalem Post. Le Times of Israel renchérit, précisant que les enquêtes détaillent la perception erronée de l'armée à l'égard du Hamas depuis une décennie, son refus de reconnaître l'invasion imminente même dans les dernières heures et enfin le chaos qui a dramatiquement ralenti la riposte le 7 octobre. N'ayant pas réalisé en temps réel que la division de Gaza était tombée, ajoute le Times of Israel, l'état-major n'a pas compris la gravité de l'attaque. L'enquête sur les combats a révélé que l'armée israélienne n'avait pas réussi à protéger les civils israéliens et n'était pas prête à faire face à une attaque surprise à grande échelle.
Et puis en France, le journal Libération s'intéresse à la manière dont le Vatican gère sa communication sur l'état de santé du pape François.
Et si l'état de santé du souverain pontife est publiquement documenté 2 fois par jour en toute transparence, estime le quotidien français, les rumeurs et incertitudes planent sur sa possible démission. Hospitalisé depuis le 14 février, le chef de l'Église catholique souffre d'une pneumonie bilatérale potentiellement mortelle. Et l'heure n'est pas aux cachotteries si l'on en croit Libération. Un premier virage a été pris au Vatican en juin 2023 lors de la deuxième opération du pape à l'abdomen. Son chirurgien Serge Alfieri avait alors donné une conférence de presse, une première longtemps impensable dans l'histoire de la papauté. Quant à une éventuelle démission, elle n'est pas exclue. Au regard de l'évolution dramatique de la santé du pape, explique Libération, les spéculations ont repris. Parmi les rares actes que le pape François a signés pendant son hospitalisation figure la convocation sans date pour le moment d'un consistoire de cardinaux pour proclamer de nouveaux saints. C'est dans ce cadre, rappelle Libération, que le 11 février 2013, Benoît XVI avait annoncé sa renonciation.
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup.